Dans quelques minutes sur RFI, notre grand invité Afrique, à quelques jours de l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement, 5 candidats, dont la sud-africaine Baja Bulile Swazi Tshabalala. Elle répond à nos questions et présentera ses priorités, notamment l'accès à l'électricité ou le développement de corridors minéraliers. Aux États-Unis, le terme « crunchy mom » a longtemps été associé à des mères démocrates, hippies qui défendent un style de vie sain, naturel. Désormais, ce terme a tendance à concerner des mamans plus conservatrices, méfiantes des vaccins, des programmes scolaires ou de l'industrie agroalimentaire. C'est le nouveau ministre de la Santé, RFK Jr., connu pour ses théories complotistes, qui a mis en lumière ces nouvelles crunchy moms. Margot Guichetot en a rencontré deux dans le Michigan, un état du Midwest. Son reportage.
Jenny vit à Carlton, une petite ville de campagne à l'ouest de Détroit. Coiffeuse 2 jours par semaine, elle consacre le reste de son temps à sa fille de 2 ans, Faye, qui court cet après-midi dans la maison, Bible à la main. La jeune maman a décidé de ne pas vacciner son enfant, lit les ingrédients de tout ce qu'elle achète et se laisse guider par sa foi pour prendre ses décisions. Elle cite un verset qui l'inspire au quotidien.
Elle travaille avec dévouement, elle prend soin de sa famille, elle veille à ce que chacun soit bien habillé. Je pense que beaucoup de ses valeurs me poussent à servir ma famille.
Même son de cloche avec Ashley, mère de 3 enfants, qui se rend fréquemment au Community Center de Brighton, un grand centre catholique offrant de nombreuses activités où elle peut retrouver ses amis et laisser ses enfants jouer. Diagnostiquée à 21 ans de la maladie de Hashimoto, elle est convaincue que le système est responsable de la hausse des maladies.
6 Américains sur 10 souffrent d'une maladie chronique. La génération de mes enfants est la plus malade de l'histoire. Alors où allons-nous à partir de là? Je pense que RFK Junior, que je suis depuis longtemps, pose les bonnes questions. C'est son moment donné par Dieu et je crois qu'il va résoudre la crise sanitaire dans notre pays.
Martha de Northville a grandi dans une famille démocrate et athée. Aujourd'hui, elle a changé de bord. Ici, dans sa grande maison de campagne, elle fait école pour ses 5 enfants vifs d'esprit qui s'amusent à tous les étages. Pour elle, ce mouvement est plutôt un facteur d'unification.
Le mouvement crunchy réunit en réalité libéraux et conservateurs car le pays est tellement divisé. J'espère que cela nous permet de trouver un terrain d'entente en réalisant que nous partageons des valeurs communes.
Si les crunchy moms ont foi en RFK Jr., le corps médical reste sceptique. Au DMC, l'hôpital de Détroit, Rachel Hone, pathologiste, pense que ces crunchy moms manquent d'informations.
Les vaccins sont la meilleure des préventions. J'ai peur de voir les progrès réalisés dans le domaine de la santé annulés à cause de personnes qui ne se font pas vacciner. Il faut qu'un certain pourcentage de la population soit vaccinée pour que ces vaccins fonctionnent. Donc, si de plus en plus de gens choisissent de ne pas se faire vacciner, de plus en plus de personnes vont tomber malades. C'est scientifique.
Selon le PEW Center, 31% des républicains affirment aujourd'hui que les vaccins sont plus dangereux que les maladies qu'ils étaient censés prévenir. En 2023, seulement 57% des républicains soutenaient l'idée de vacciner les enfants fréquentant les écoles publiques contre 79% en 2019. Margot Guichetot, RFI.
RFI 8h47 à Paris, 6h47 en temps universel. La Banque africaine de développement s'apprête à changer de président. Il ou elle sera élu jeudi prochain, le 29 mai, et succédera au Nigérian Akinwumi Adesina. 5 candidats sont en lice, dont la sud-africaine Baja Bulile Swazi Tshabalala. Elle est notre grande invitée Afrique ce matin. Elle a été vice-présidente de la Banque africaine de développement en charge des finances et elle répond aux questions de Claire Fage.
Baja Bulile Swazi Tshabalala, bonjour.
Bonjour.
En tant qu'ancienne vice-présidente chargée des finances de la BAD, votre action sera-t-elle en phase avec les 2 mandats d'Akinwumi Adesina?
En fait, j'ai participé à la rédaction de la dernière stratégie de la banque et ma vision s'appuie vraiment sur cette stratégie décennale. J'ai donc toujours affirmé que l'Afrique n'avait pas besoin de nouveaux plans, mais de concrétiser ses plans. Et c'est vraiment sur cela que se concentre ma vision que j'appelle Lift Africa.
À la fin de son premier mandat, M. Adesina a été critiqué pour sa gouvernance. La banque doit-elle encore progresser sur ce point?
Toutes les organisations doivent examiner leur gouvernance pour voir où elles peuvent l'améliorer. C'est particulièrement important pour attirer le secteur privé et s'assurer qu'il soit un partenaire de long terme de l'ABAD pour financer le développement de l'Afrique.
Dans votre programme, vous insistez sur le manque d'infrastructures du continent. Est-ce actuellement la plus grande faiblesse des économies africaines?
Les emplois ne sont pas créés par les banques de développement, mais par le secteur privé. Ce dernier a besoin d'une électricité fiable. Pour accéder au marché, il a besoin de routes, de voies ferrées, de ports et de connexions numériques. Ce sont les défis de l'Afrique et c'est pourquoi les infrastructures sont le fondement d'une accélération de son développement.
Avez-vous des projets prioritaires à l'esprit that you have in mind?
Oui, je pense évidemment que l'accès à l'électricité est extrêmement important. Je ferai en sorte d'accélérer les choses. Il y a aussi de grands projets sur la table dont il faut finaliser le financement. Par exemple, le corridor minéralier de Lobito reliant la Zambie, la RDC et l'Angola. Le corridor de Nacala en Afrique australe. Il y a aussi la route Lagos-Abidjan qui est un projet important.
There is also the Lagos-Abidjan road, which is also an important project.
One of the obstacles to the African Development Bank. L'un des défis de l'ABAD est sa capacité à prêter plus d'argent. Vous avez contribué à augmenter son capital en émettant de la dette assimilée à du capital. Cette opération peut-elle être répétée ou existe-t-il d'autres solutions?
Are there other solutions?
Again, this is an example how you can bring private sector experience.
Là encore, c'est un exemple de la contribution du secteur privé aux banques de développement. J'ai introduit cet instrument à l'ABAD pour nous permettre de lever des capitaux à long terme, ce qui est indispensable au développement. Il s'agissait de lever des capitaux à long terme auprès d'investisseurs institutionnels du monde entier, plutôt que de solliciter, comme d'habitude, nos actionnaires. Donc oui, je pense que nous pouvons émettre plus de capital hybride. Il existe également d'autres instruments que nous pouvons déployer, y compris utiliser le capital de la banque pour dérisquer les investissements du secteur privé.
La décision des États-Unis de ne pas contribuer au Fonds africain de développement dédié aux États les plus fragiles est-elle une source d'inquiétude pour la BAD?
Oui, bien sûr, parce que ce type de subvention reste crucial. La Banque africaine de développement continuera donc à plaider en faveur de ces financements, tout en travaillant par exemple avec les fondations philanthropiques. Bill Gates a annoncé qu'il déploierait 200 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour aider les États fragiles du continent. Nous devons aussi examiner les autres régions en mesure de contribuer davantage pour pallier ce manque et aider en particulier les pays fragiles.
Mrs. Tshabalala, thank you.
Thank you very much and bonne journée.
La Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala, candidate à la présidence de la Banque africaine de développement. Vous retrouvez sur notre site internet la présentation des 5 candidats et les entretiens qu'ils ont accordés à RFI. Après 10 jours de projection, la Palme d'Or sera décernée ce soir à Cannes. Une cérémonie clôturera le Festival du cinéma. Dans le même temps se déroulait le marché du film au pavillon Afrique. Il a été question de l'avenir de la production cinématographique sur le continent. Face au développement technologique, notamment au développement de l'intelligence artificielle, de nombreux débats ont été organisés avec la participation de jeunes créateurs africains. Reportage de notre envoyé spécial à Cannes, Ouda Ibrahim.
Une idée importante est perpétuellement revenue dans les débats, faire profiter les créateurs du continent de l'expérience de la diaspora, créer des ponts et transmettre les connaissances acquises et le savoir-faire, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Les organisateurs visent à unir les énergies pour trouver des solutions à une industrie en manque d'infrastructures. Pour la participante au débat, Lamia Belkaad Giga, universitaire tunisienne et enseignante de cinéma, il faut également plus d'échanges entre les pays africains.
Aujourd'hui, il y a énormément de challenges, énormément de choses à mettre en place par rapport aux films d'animation et les effets spéciaux, tout ce qui est de créer soit des collectifs, et surtout qu'il n'y a pas la formation dans la plupart des pays. Il y a un déséquilibre entre les pays africains, donc ça serait bien de créer un écosystème africain-africain, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, le sud de l'Afrique, le centre de l'Afrique, les pays anglophones, francophones. Je pense qu'il y a pas mal aujourd'hui de films qui se font entre les pays, et je trouve que c'est une bonne chose.
Évoquons le présent et l'avenir du cinéma africain face à l'intelligence artificielle, Karine Barclay, la fondatrice du pavillon Afrique, met en garde « Le continent ne doit pas arriver après la bataille ».
Nous sommes tous au même niveau en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et l'Afrique a vraiment toutes ses chances d'être au niveau mondial, ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas parmi les premiers. Il y a déjà des gens qui font vraiment du très bon travail dans l'animation, dans le cinéma de manière générale, qui sont d'origine africaine.
Selon Karine Barclay, les différentes compétences forment un écosystème, mais pour bâtir une industrie durable, il faut croiser les compétences et avoir surtout le soutien politique.
Il faut juste qu'il y ait la partie un peu légale. Le gouvernement devrait faire leur travail dans ce sens-là pour protéger les droits des auteurs. On ne peut pas embrasser, je dirais, l'intelligence artificielle dans des pays sans mettre en place des conditions de protection de la propriété intellectuelle, une éducation sur ce qu'est l'intelligence artificielle.
Comprendre, maîtriser, adapter, des mots qui sont souvent revenus dans les débats face aux nouveaux défis qui transforment le métier et même l'imaginaire des créateurs. Houda Ibrahim, Cannes, RFI.
Et on suivra le palmarès du Festival de Cannes dans une édition spéciale ce soir sur RFI à 18h, temps universel. Avant, on détaillera les prétendants à la Palme d'Or dans l'émission Tous les cinémas du monde. Ce sera à 15h10, temps universel, toujours avec nos envoyés spéciaux à Cannes. À Paris, on passe à la chronique média. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour.
On revient ce matin sur l'écho médiatique donné à l'assassinat de deux fonctionnaires de l'ambassade israélienne à Washington.
Oui, ils étaient jeunes, pleins d'avenir, et ils ont été assassinés aux abords de l'American Jewish Committee à Washington par un Américain se réclamant de la Palestine libre. De ces deux employés de l'ambassade israélienne, Sarah Milgrim et Yaron Lischinski, on sait déjà beaucoup de choses, par exemple que lui était né allemand, d'un père juif et d'une mère catholique, qu'il se disait chrétien évangélique, qu'une bague avait été achetée et qu'il avait prévu de demander la main de sa petite amie dans les prochains jours à Jérusalem. Après l'incarnation, la récupération politique a suivi. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sar, a fait de Yaron un combattant sur le front diplomatique, tombé sur le champ de bataille et a accusé les pays européens et les leaders du monde d'inciter à la haine antisémite. Une accusation destinée à répliquer à la volonté de la France, du Royaume-Uni et du Canada de reconnaître l'État palestinien et peut-être pour lieu de réviser l'accord de coopération avec Israël.
Et cela contraste, selon vous, avec les morts palestiniens anonymes victimes des bombardements à Gaza?
Oui, parmi les 53 000 personnes tuées à Gaza par l'armée israélienne, dont une majorité de femmes et d'enfants, parmi les affamés, les déplacés, les 2 millions de personnes en danger de mort imminente selon l'OMS, quelles histoires personnelles sont arrivées jusqu'à nous? Peut-être quelques-unes parmi les 200 journalistes morts, dont 43 dans l'exercice de leur métier, ceux qui étaient en lien avec des médias occidentaux. Peut-être l'histoire de cette photographe, Fatima Hassouna, au sourire rayonnant et à laquelle la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a consacré un documentaire présenté à Cannes. Mais dans l'ensemble, ces morts n'ont pas de nom, pas de visage, ils sont invisibles, tout simplement parce que l'armée israélienne continue son blocus de l'information, empêchant les journalistes étrangers de témoigner à Gaza.
Amaury, pour vous, ce silence contraste aussi avec la propagande des médias israéliens?
Oh, pas tous, pas le journal Haaretz ou le média public Cannes qui sont dans le viseur de Netanyahou. Mais Le Monde consacrait jeudi un article à la banalisation des discours aux accents génocidaires au sein du gouvernement et de la droite israélienne sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, en particulier sur la chaîne 14. Haaretz a résumé les choses ainsi. À la télévision israélienne, affamer les bébés de Gaza n'est pas un problème. aussi longtemps qu'il n'y a pas de photo d'eux. L'invisibilisation est aussi une arme de guerre.
La chronique média signée Amaury de Rochegonde. Dans une minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale. On est en direct de Kiev dans le prochain journal.
Émission spéciale, clôture du Festival de Cannes 2025. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Quel film remportera la Palme d'Or ? Viendra-t-il d'Iran, du Brésil, d'Espagne ou de Norvège ? 22 films à juger et à départager. Retrouvez-nous pour commenter en direct et à chaud le palmarès du 78e Festival de Cannes.
RFI vous fait vivre le bilan de cette 78e édition ce samedi à partir de 18h TU.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Depuis bientôt 20 ans, c'est le correspondant à Washington du réseau de télévision canadien TVA. Le journaliste québécois Richard Latendresse est mon invité. Il m'a raconté les coulisses de la Maison-Blanche et nous avons discuté des impacts des méthodes de Donald Trump et de son équipe sur le travail des médias. Je vous donne rendez-vous dimanche à 11h10 temps universel sur RFI pour l'atelier des médias.